Vous êtes sur RTL.
30h. RTL Matin, Agnès Bonfillon. Le Tout Info, c'est avec vous, Yann Bouchery, bonjour.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
Pour tout entendre de l'actualité de ce dimanche 5 janvier 2020.
Et tout d'abord, une 24e victime des incendies qui ravagent actuellement l'Australie. Un homme est décédé alors qu'il essayait de sauver la maison de l'un de ses amis dans le sud-est du pays. Les brasiers sont incontrôlables, du jamais vu dans la région. Nous sommes en territoire inconnu, a déclaré la première ministre de la Nouvelle-Galles du Sud. Nathalie, française expatriée, habite justement cette province depuis un an.
Comme on sait qu'il y a la mer pas loin, de toute façon, il y a des solutions de repli, en fait. Mais ce qui est embêtant, c'est plus les fumées toxiques, en fait. C'était comme si vous fumiez 30 cigarettes en une journée, en fait. On sent cette odeur de fumée, de feu, en fait. Mais en fonction des vents, ça va et ça vient. Je l'ai plus senti sur Sydney, en fait, quand j'étais arrivée en avion, où là, vous avez vraiment cette odeur de feu qui imprègne les habits. En fait, vous avez aussi des cendres qui tombent régulièrement sur la peau. Ces pellicules qui tombent et puis cette espèce de fumée, de nuages, en fait, où vous ne voyez pas le ciel, en fait, vous ne voyez pas le soleil. Il y a toujours une espèce de pellicule de nuages, en fait, qui vous empêche de voir le ciel.
Nathalie, française expatriée en Australie, jointe pour RTL par Marion Ferrer.
48 heures après avoir tué l'un de ses généraux, Donald Trump maintient la pression sur l'Iran.
Les États-Unis ne veulent plus de menaces, a prévenu le président américain cette nuit dans un tweet. Il a averti Téhéran que les USA ont identifié 52 sites en Iran et les frapperont très rapidement et durement si la République islamique attaque du personnel ou des objectifs américains. Le locataire de la Maison-Blanche, dont la stratégie va-t-en-guerre n'est pas justifiée, selon Pascal Boniface, le président fondateur de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques.
Donald Trump a déclaré qu'il n'avait pas déclenché une guerre, mais qu'il en avait évité une. On peut s'étonner de tels propos parce que si un haut dignitaire américain avait été assassiné par un pays étranger, il n'aurait pas tenu ce discours. Cela ne peut être vu par les Iraniens que comme un message de guerre et une déclaration de guerre. Trump est égal à lui-même, il parle à son propre camp, et peut-être d'ailleurs est-il lui-même persuadé que le monde est plus sûr sans Soleimani. Simplement, il y a un principe de réalité qui va le rattraper. On rentre dans un monde beaucoup plus dangereux, et le fait de dire que le monde est plus sûr sans M. Soleimani me rappelle la phrase de George Bush disant que le monde était plus sûr sans Saddam Hussein. On sait comment cela s'est terminé. En fait, le monde serait plus sûr si les Américains cessaient d'avoir une politique aussi belliqueuse et unilatéraliste et aussi peu respectueuse du droit international.
Pascal Boniface, le fondateur de l'Iris au micro RTL d'Agathe Landais. Conséquence directe de cette escalade entre les États-Unis et l'Iran, la marine du Royaume-Uni va escorter les navires commerciaux battant pavillon britannique dans le détroit d'Ormuz. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Défense de Boris Johnson. Et puis on apprend également, il y a quelques minutes, que des miliciens islamistes ont attaqué une base militaire au Kenya où se trouvent des troupes américaines. Cette attaque a été repoussée. En bref, première réaction du gouvernement japonais après la fuite de Carlos Ghosn au Liban, alors qu'il était en liberté sous caution dans l'attente de son procès. Cette fuite est injustifiable, déclare ce matin la ministre nippone de la Justice. Le système judiciaire pénal de notre pays dispose de procédures appropriées pour établir la vérité en garantissant les droits humains fondamentaux, a-t-elle ajouté.
En France, 24 heures après l'attaque au couteau de Villejuif, le parquet national antiterroriste a décidé de se saisir de l'enquête.
Elle a fait, on le rappelle, un mort et deux blessés perpétrés par un jeune homme atteint de troubles psychiatriques et converti à l'islam. C'est ce qu'il est ressorti des éléments recueillis hier par les policiers. Le parquet national évoque une radicalisation certaine et une préparation organisée du passage à l'acte. Dans le sac qui lui appartenait, les policiers ont retrouvé des ouvrages salafistes et une lettre testamentaire. Selon la procureur de Créteil, Laure Bécuot, l'homme abattu présentait un profil psychiatrique très lourd.
Un garçon qui a été très vite repéré comme étant quelqu'un avec des hautes capacités intellectuelles, mais avec également cet aspect plus sombre de cette personnalité de suivi psychiatrique qui s'est engagé très tôt dans son parcours puisque sa maman fait état d'un suivi psychiatrique qui commence à l'âge de 5 ans. Il fait l'objet de plusieurs hospitalisations, dont certaines à la demande de ses parents. Il sort du dernier établissement psychiatrique qu'il fréquente en mai 2019. Il est alors soumis à un traitement médicamenteux qu'il va interrompre en juin 2019.
La procureure de Créteil, Laure Bécourt. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier en France, dont 3500 à Paris, contre la réforme des retraites, alors même que le soutien au mouvement de grève accuse une forte baisse, selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche. Moins 6% en 2 semaines. Ça ne peut plus durer, il y a urgence à sortir de ce conflit qui épuise les Français, affirme le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Mais 55% des sondés souhaitent que le gouvernement n'aille pas au bout de cette réforme en l'état. Et pourtant, la promesse d'un régime universel sera tenue. C'est ce que déclare le monsieur retraite du gouvernement dans un entretien aux Parisiens. Les marins, les policiers, les militaires ou les danseurs de l'opéra qui ont déjà obtenu des aménagements sont des cas extrêmement limité. C'est ce qu'ajoute Laurent Pietraszewski. La semaine, en tous les cas, s'annonce décisive avec 2 journées d'action les 9 et 11 janvier. Mardi, réunion entre gouvernement et syndicats. Et auparavant, Édouard Philippe, le Premier ministre, sera l'invité exceptionnel d'RTL et d'Alba Ventura. Ce sera donc mardi à 7h40.
RTL Matin, il est 7h35 et on passe au sport.
Oui, comme d'habitude, les 32e de finale de la Coupe de France ont réservé leur lot de surprises.
L'exploit le plus retentissant concerne la JS Saint-Pierroise. Le club réunionnais de Régional 1, soit la 6e division, est allé s'imposer 2-1 à Niort, formation de Ligue 2. C'est la première fois qu'un club d'outre-mer atteint les 16e de finale depuis 1989. Jamais un club de la Réunion, d'ailleurs, n'était allé aussi loin dans la compétition. Mais cette performance ne doit rien au hasard, selon Guillaume Oharo, l'ancien joueur du PSG d'origine réunionnaise, joint pour RTL par Sylvain Charlet.
Aujourd'hui, c'est vraiment le club qui domine le championnat. Après, sur le plan historique, ça a toujours été le numéro 1 à La Réunion. Voilà, on a souvent comparé notre club de la Saint-Pierroise un peu à Marseille, parce qu'il y avait vraiment une ferveur à l'époque, dans l'ancien temps. Et on a eu pas mal de grands noms qui ont joué, qui sont passés par ce club-là. Et Roger Milla, qui avait fait une pige, Djibril Cissé, qui a aussi fait une pige. Donc, c'est un club qui, à La Réunion, voilà, il est sur le trône. Et puis... Et puis c'est très bien, je pense que en tant que Réunionnais, on peut vraiment être fier, quoi. C'est l'union sacrée, là. Ah ben là, c'est la folie. Moi, j'ai un groupe là avec tous mes cousins, là, on parle que de ça, et je pense que ben là, c'est parti, hein. Ils vont être accueillis comme des héros, et puis on a hâte.
D'avoir le prochain adversaire, Guillaume Oharo, joint pour RTL par Sylvain Charlet. A noté hier aussi la qualification de Saint-Privé-Saint-Hilaire dans le Loiret, club de National 2 qui a battu Toulouse sur le score de 1-0. Succès de l'Atlético Marseille, club de National 3 qui a sorti Rodez Ligue 2 sur le score de 2-1. Qualification difficile du tenant du titre, le Stade Rennais au tir au but face à Amiens. Carton de Lyon 7-0 à Bourg-Péronnat. Qualification de Nantes, Monaco et Strasbourg. Suite des rencontres aujourd'hui avec le duel régional entre Limonest et Le Puy. Un match forcément spécial pour Sidney Govou, l'ancien joueur de l'OL et conseiller technique depuis 2015 dans le club amateur de National 3 et le Puy-en-Velay et sa ville natale. Il s'est confié à Willy Mézanas.
Oui, moi, enfin, ça m'a fait marrer quand on a eu le tirage. J'ai senti que les joueurs étaient un petit peu déçus parce qu'ils auraient préféré jouer contre une Ligue 1 voire une Ligue 2. Et moi, j'étais hyper heureux de tomber contre le Puy. Donc voilà, c'est ça la Coupe de France, même si je joue pas. Étant du Puy-en-Velay et finissant à Limonest, parce que Limonest-Saint-Didier, c'est une jeune génération avec lesquelles je m'entraîne, avec lesquelles je prends énormément de plaisir. C'est aussi pour ça que je suis ici, que je reste ici. Donc ça fait un truc étrange de rencontrer, entre guillemets, son enfance avec son actualité. Il y a tout qui réunit pour qu'il y ait beaucoup d'émotions.
À Sidney Govou au micro RTL de Willy Mézanas. Cette journée de Coupe de France s'achèvera avec le duel entre l'INAS Montlhéry à club de Régional 1, soit la 6e division, et le PSG ce soir à 20h55 à Bondoufle. Paris qui sera privé de Thiago Silva et Kimpembe. Mais c'est important, Neymar sera dans le groupe.
C'est pas vrai, Neymar dans le groupe. Il va jouer ?
Ah ça, je peux pas vous dire.
Ah, vous pouvez pas me dire.
Vous vous intéressez au foot maintenant, Agnès, c'est nouveau.
Alors, je le prends très très mal ce que vous dites. Vous demanderez à Stéphane Carpentier, qui est de retour la semaine prochaine. Je m'intéresse au foot, Yann, défendez-moi.
Ah mais évidemment, mais c'est une de vos passions.
Mais exactement, c'est pas que je m'intéresse au foot, c'est ma vie, vous comprenez ? C'est ma vie.
On vous croit, Agnès. Dans un instant, dans RTL Matin, tenez.
Dans un instant, nous allons parler littérature, jardinage, mais aussi d'un petit geste qui, figurez-vous, peut tout changer au quotidien, celui de faire son lit.
Il est 7h39.